Pour ouvrir notre discussion, pourriez-vous expliquer comment la détérioration de la sécurité dans l'est de la RDC, notamment l'expansion du M23, a bouleversé les chaînes financières et provoqué une crise de liquidité sans précédent dans la région ?
En effet, la multiplication des affrontements et l'expansion territoriale du M23 ont entraîné la fermeture de nombreuses agences bancaires. Cela a coupé l'accès au cash pour les ménages et les ONG, les forçant à se tourner vers d'autres prestataires capables d'approvisionner les zones affectées localement.
Face à ces restrictions bancaires, pourquoi les transferts monétaires restent-ils privilégiés par les acteurs humanitaires et les communautés malgré ces défis croissants ?
Parce que les CT offrent une flexibilité essentielle pour répondre rapidement aux besoins de base des populations déplacées ou en retour. Même dans l'instabilité, ils permettent de préserver la dignité des bénéficiaires en leur laissant le choix sur l'utilisation des fonds, un aspect crucial en contexte de crise.
Pour faire la transition, dans ce contexte tendu, le mobile money se présente-t-il réellement comme une alternative viable pour contourner ces obstacles physiques ? Voyons maintenant la dynamique du marché. En 2024, on comptait 29 millions d'utilisateurs de mobile money en RDC, soit un taux de pénétration de 35%. Comment expliquer cette croissance, notamment à l'est du pays ?
Cette expansion s'explique par l'entrée de quatre grands opérateurs, Vodacom, Airtel, Orange et Africell, qui ont investi dans l'inclusion financière. Près de 6,5 millions de comptes actifs sont concentrés dans les provinces de l'Est, grâce à une densité urbaine plus forte et des besoins accrus en services alternatifs.
Cependant, cette croissance est-elle homogène sur tout le territoire ou observe-t-on des disparités notables, par exemple entre Goma et les zones rurales ?
Les disparités sont frappantes. Si Goma bénéficie d'une couverture réseau dense et d'un grand nombre d'agents, les zones périphériques souffrent de faiblesses de couverture, de frais d'agents gonflés et d'une digitalisation moins maîtrisée. La dynamique reste donc très localisée, accentuant les inégalités d'accès.
Passons aux contraintes. Quels sont les principaux obstacles techniques et opérationnels qui limitent actuellement l'usage du mobile money pour les transferts humanitaires dans l'est du Congo ?
Les défis sont multiples. Réseau instable, densité insuffisante d'agents, suspension fréquente des services en zone à risque, absence d'assistance technique et base de données non fiables. À cela s'ajoutent de graves problèmes de traçabilité et un risque accru de fraude.
Et sur le plan socio-économique, quelles difficultés majeures rencontrent les populations déplacées ?
Beaucoup ne possèdent pas de téléphone, manque de documents officiels ou de compétences numériques, la méfiance envers les outils digitaux est élevée, notamment à cause d'expériences passées de fraude. Cela exclut les plus vulnérables, surtout les femmes, les personnes âgées et les analphabètes.
Finalement, du point de vue opérationnel, comment ces contraintes se traduisent-elles lors des distributions ?
On observe une dépendance massive au retrait en cash immédiat, créant une pression sur les agents, des files d'attente, des frais parfois supérieurs à 20% et une forte exposition au risque de change et à la manipulation par des intermédiaires non officiels.
Malgré ces limites, le mobile money offre-t-il de réelles opportunités pour renforcer l'inclusion financière et la résilience des bénéficiaires dans la région ?
Oui, il ouvre l'accès à l'épargne, au crédit et au transfert de fonds, ce qui est inédit pour beaucoup. Le gouvernement a lancé une stratégie visant à porter l'inclusion financière à 65% d'ici 2028 en ciblant précisément les populations exclues et en misant sur la digitalisation des paiements sociaux.
Quelles innovations techniques ou partenariats pourraient permettre de surmonter les principaux obstacles identifiés sur le terrain ?
La distribution ciblée de téléphone, l'enregistrement biométrique pour pallier le manque de pièces d'identité, ou encore les alliances avec des commerçants locaux pour densifier le réseau d'agents sont autant de pistes prometteuses. L'éducation numérique adaptée reste un levier clé pour l'autonomisation des bénéficiaires.
En pratique, comment ces solutions ont-elles été expérimentées ailleurs ? Et avec quels résultats sur l'efficacité de l'aide ?
Au Kenya, la distribution de SIM et l'intégration de marchands ont permis d'élargir l'accès au mobile money, réduisant les délais de distribution et améliorant la sécurité des transferts. Toutefois, la réussite dépend de l'adaptation au contexte local et d'un accompagnement soutenu sur le terrain.
Abordonne la faisabilité selon les zones. Pourquoi observe-t-on de telles différences entre milieux urbains, périurbains et ruraux concernant l'efficacité des transferts par mobile money ?
En ville, la couverture réseau et la densité d'agents facilitent les transactions. Mais les frais informels restent élevés. En périphérie, la couverture est partielle, la mobilité des bénéficiaires et la faible densité d'agents compliquent tout. En zone rurale, l'absence quasi totale d'infrastructures rend la solution très peu praticable.
Quels sont les principaux risques pour les bénéficiaires en fonction de la zone et comment les ONG peuvent-elles adapter leur stratégie pour les atténuer?
Les risques vont de l'exclusion des plus vulnérables à la perte de confidentialité, en passant par l'extorsion et la fraude. Les ONG peuvent distribuer des téléphones, négocier l'enregistrement biométrique et instaurer des modules de formation. Il est crucial de renforcer le maillage d'agents et de garantir la gestion rapide des plaintes.
Dans ce contexte, l'usage du mobile money peut-il vraiment être généralisé ou doit-il rester limité à certains cadres bien définis?
Il doit rester une alternative adaptée à des contextes précis, principalement en milieu urbain, avec infrastructures adéquates. Une généralisation sans diagnostic approfondi augmenterait les risques d'exclusion, de surcoût et d'échec opérationnel.
Pour conclure, quelles recommandations prioritaires formulerez-vous aux ONG, bailleurs et autorités pour une utilisation responsable du mobile money dans les transferts humanitaires?
D'abord, privilégier les pilotes en milieu urbain, après étude de faisabilité, et ajuster le montant des transferts en tenant compte des frais réels. Il faut renforcer la formation digitale des bénéficiaires, distribuer des équipements adaptés et documenter les pratiques abusives pour mieux les combattre.
Quelles actions spécifiques les bailleurs devraient-ils soutenir pour accompagner cette transition et protéger le pouvoir d'achat des bénéficiaires?
Ils devraient financer la distribution de téléphones, la formation et la compensation des frais imprévus. Soutenir la négociation collective avec les opérateurs pour plafonner les commissions et encourager la flexibilité budgétaire pour s'adapter aux réalités locales est également essentiel.
Enfin, comment garantir la redevabilité et l'apprentissage collectif lors du déploiement de cette modalité numérique dans un contexte aussi volatile?
Il importe de renforcer les mécanismes de retour d'information communautaire, de mener des évaluations post-distribution et de partager systématiquement les leçons apprises via les plateformes interagence. Seule une approche progressive, participative et régulée permettra d'ancrer le mobile money dans l'aide humanitaire de demain.